Bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et c'est l'épisode de jeudi du podcast Ohana. À mes côtés, Olivier de Scooter. Salut Olivier.
Salut Hermano.
Et notre spécialiste du sommeil, Lucille. Salut Lucille.
Salut Hermano, salut Olivier.
Hier, on a parlé de beaucoup de choses, notamment sur le sommeil. Qu'est-ce que c'est que le sommeil? On a divagué un petit peu sur notamment des études qui revenaient sur la possibilité d'avoir des crédits ou des débits de sommeil. On avait dit qu'aujourd'hui, on parlerait du décalage horaire, du jet lag. Peut-être qu'avant, on pourrait se poser la question de suis-je du matin ou suis-je du soir? Est-ce que, Lucille, et d'ailleurs ça c'est une question de notre cher maître Olivier, Lucille, est-ce que tu crois que ça existe vraiment, ce mythe du je suis du matin ou je suis du soir, ou alors c'est plutôt une question d'habitude, de tâches que l'on s'est fixées, et puis peut-être une question de sensation, se sentir mieux le matin ou se sentir mieux le soir?
Alors est-ce que c'est un mythe général ou c'est votre mythe à vous? Ou Luxembourg, ou Bruxelles, je sais pas.
Non, c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Moi, je suis plutôt du matin, moi, je suis plutôt du soir. Moi, la question, c'est est-ce que on a vraiment, il y a vraiment des organismes, donc des critères physiologiques qui font que on peut être plus du matin ou du soir? Ou bien est-ce que finalement c'est plutôt lié à des habitudes qui ont été prises ou à une culture ou voilà à notre environnement social par exemple?
Alors je trouve la question hyper intéressante et je vais y répondre et je vais casser le mythe du coup.
Ah tu veux dire qu'il y a pas de mythe en fait?
Ouais non. En fait le concept d'être du matin ou du soir, il y a même un nom pour ça, d'accord? Ça s'appelle avoir un chronotype. Quel type on est dans le temps, ok? Et donc, il existe vraiment en fait des échelles et même des questionnaires qui ont été validés par des scientifiques qui démontrent que les gens peuvent être plus du matin, plus du soir ou intermédiaire.
Et donc ça va dépendre finalement du taux de mélatonine qu'on va retrouver en fonction, et donc du coup de l'horloge biologique, c'est ça?
Exactement. Donc ça, okay. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil est aussi régulier au niveau génétique, d'accord? Souvent, on va retrouver des familles de gros dormeurs, des familles qui se lèvent tôt le matin, des familles qui sont plutôt du soir. Donc ça, après, toute cette génétique-là, aussi, elle va être, c'est l'histoire de génération, et ça peut être aussi guidé par notre environnement. Si par exemple pendant les trois générations c'était des agriculteurs par exemple qui doivent se lever à 4h du matin, et ben il y a des chances pour que la sixième génération, ben les enfants aient hérité de ces gènes là.
Donc on parle bien d'épigénétique alors, c'est ça?
Exactement.
Yes. on pourra se faire une semaine sur le thème de l'épigénétique. Voilà. À l'occasion.
Donc c'est vrai que donc ça peut être ancré dans nos gènes et ça peut être aussi nous qui influençons sur notre rythme quotidien. Si par exemple on privilégie au quotidien toutes nos activités plutôt vers le matin, on va avoir tendance plutôt, alors avec notre mémoire cellulaire, à se réveiller plus tôt, du coup se coucher plus tôt aussi. Donc ça peut être aussi influencé par nos activités. Mais le concept d'être plutôt du matin et plutôt du soir, ça existe vraiment.
Parce que du coup, bah, c'est intéressant, parce que ta réponse finalement, elle reste quand même nuancée, parce que si on parle d'épigénétique, ça veut dire que tu peux d'une certaine manière, par tes actions et par ton mode de vie, venir modifier ta propre génétique. Donc ça veut dire que finalement, c'est parce que mes ancêtres ont pris l'habitude de se lever tôt le matin que moi je suis quelqu'un du matin.
Bien sûr.
Donc du coup, est-ce que si moi par exemple je décide, et c'est quelque chose qui m'est arrivé, c'est vrai que moi j'ai toujours eu, il y a plusieurs années, je pensais que j'étais plutôt quelqu'un du soir, et en fait j'ai commencé à me lever tôt le matin. Et je remarque que je suis beaucoup plus productif en me levant tôt le matin. Et donc du coup c'est vrai que moi-même je me pose un petit peu la question finalement.
Bien sûr. C'est pour ça que je disais du coup hier que le sommeil pour moi c'est aussi un jeu et c'est aussi de savoir est-ce que je suis plutôt du matin, est-ce que je suis plutôt du soir, etc. Donc ça c'est vraiment la question. Après il y a des questionnaires justement. Tapez questionnaire chronotype sur internet et vous pouvez très bien répondre à ces questions et ils vous diront si vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir. sachant qu'il y a 75% de la population qui est de profil intermédiaire, c'est-à-dire ni du matin ni du soir. Voilà.
Donc du midi, quoi.
Du midi, exactement.
Et ça vaut quoi ces questionnaires, Lucille ? Parce que c'est vrai que pour des questionnaires en ligne, on en trouve souvent, et je pense qu'il y a, il y a un petit peu de tout. Est-ce que c'est des questionnaires qui sont plutôt bien faits, selon toi ?
Oui, oui, bien sûr. Mais après, ça a été validé au niveau scientifique. Ça pose aussi, en fait, des problématiques au niveau de l'organisation des entraînements de sport collectif. Dans le sens où il y a entraînement demain à 9h, et il y en a qui vont dire 9h, c'est un peu tard, et il y en a qui vont dire 9h, c'est un peu tôt. Et on va dire, pour 75% du coup des joueurs, ça veut dire, bah, ok, 9h, c'est parfait, ça me convient bien. Et c'est le gros aussi atout des sports individuels, comme le triathlon, où finalement, bah, on peut s'organiser un peu comme on veut. Souvent, on va privilégier la natation tôt le matin. Le vélo, ben voilà, peut-être pourquoi pas aller au travail à vélo, et donc plus dans la journée en continu, et puis la course plutôt en fin de journée.
Oui, enfin, de toute façon, pour les triathlètes, la question se pose pas. Le triathlète s'entraîne toute la journée.
Voilà,
il n'y a pas de meilleur moment. Matin, midi ou soir, il n'y a pas de problème. Non, mais plus sérieusement, du coup, tu nous parles de chronotype. Est-ce que ce chronotype peut justement être impacté dans le cadre d'un déplacement et donc la gestion du décalage horaire?
Mais justement, il y a un article qui est sorti début février, là, que j'ai malheureusement pas eu le temps de lire, sur la gestion du décalage horaire et l'influence du chronotype. Voilà, c'est un article à lire. Comment ça se passe, les décalages horaires? En fait, les décalages horaires sont plus ou moins faciles ou difficiles, du coup, si on se décale, pardon, vers l'est ou vers l'ouest. Tu me disais tout à l'heure, Armano, que c'est toujours plus compliqué de aller aux États-Unis que d'en revenir. OK? Dans le sens où, quand on se décale vers l'ouest, on remonte dans le temps.
Attends, excuse-moi, tu as dit c'est plus compliqué d'aller aux États-Unis depuis l'Europe que de revenir?
En termes de décalage horaire, en fait, tu remontes le temps. Donc, tu pars d'Europe, par exemple, la nuit tombe et t'arrives là-bas, il fait encore jour.
Ok, parce que, enfin, du coup, c'est peut-être quelque chose qui est très personnel aussi, mais moi, personnellement, je suis parti en Colombie là récemment et justement, j'ai beaucoup plus facile à voyager vers l'ouest. Par contre, le retour donc vers l'est est pour moi beaucoup plus difficile.
Ouais, alors il y a l'excitation d'aller en Colombie aussi, hein. T'avais peut-être envie d'aller.
Ok, d'accord. J'avoue, ça joue peut-être.
Voilà.
Mais après, c'est vrai que, enfin, moi, ce que j'apprécie particulièrement quand je vais vers l'ouest, c'est que, bah, je vais me réveiller tôt le matin et en fait, je vais avoir une longue journée. Bon, je serai un peu fatigué le soir, mais c'est pas très grave. Alors que dans l'autre sens, j'ai beaucoup plus de mal. C'est vraiment difficile de se réveiller et j'arrive pas à m'endormir le soir.
Bah voilà, bah génial d'avoir les deux types de.
Ok,
de
donc personnes. ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Alors,
ouais, ça dépend. Et puis, bah, tu disais que t'étais peut-être plus du matin, donc ton chronotype influence probablement sur la gestion de ton décalage horaire. Alors Manu, je sais pas si t'es plus du matin, du soir, du milieu.
Ça bouge un peu, j'étais beaucoup du soir quand j'étais plus jeune, et maintenant que je vieillis, je suis plutôt du matin aussi.
Oui, ça a tendance à se décaler, hein, dans le temps, je vous rassure.
D'accord, ça
voilà,
va.
On a souvent tendance à être du soir jusqu'à un certain âge, et puis après voilà.
Bah, dès qu'on arrive de faire la chouille avec les copains,
ouais, c'est la pression sociale, ça, c'est la pression sociale.
Donc il y en a qui ont trouvé l'astuce, ils restent étudiants toute leur vie et puis comme ça ils restent du soir. Non, plus sérieusement, donc par rapport à la gestion des décalages horaires, donc il y a le chronotype qui va influencer. Il y a aussi les jours en amont, en fait, qui vont faire en sorte qu'on peut anticiper, en fait, ce décalage horaire. Dans le sens où, quand on se décale, on va dire, de 5 heures vers l'ouest, on va mettre un jour pour une heure de décalage horaire à récupérer. Ça va, ce concept?
Ouais, moi, donc, c'est ce que j'avais entendu, effectivement, voilà. Aussi.
À peu près, hein.
C'est comme les nuits blanches, quoi. On met un jour par heure de nuit non effectuée pour récupérer.
Exactement. Donc ça, on va dire que soit on arrive à anticiper le décalage horaire en amont, avant de se déplacer, parce que ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que des fois, quand on se déplace, c'est qu'on n'a pas forcément, que ce soit pour une compétition ou pour un voyage, etc., on n'a pas forcément l'occasion d'arriver quelques jours avant la compétition pour se dire, ah ben, je vais me recaler à le bon horaire. Non, des fois, c'est on atterrit et puis 2-3 jours après, on a la compétition. Donc le but, c'est de pas ressentir l'heure qu'il est en France alors qu'on est aux États-Unis ou au Japon. Donc ça, pour ça, il y a...
Et donc là, on reboucle sur les épisodes d'hier et d'avant-hier où on parlait justement de ce fameux débit crédit au niveau du sommeil.
Ouais, c'est ça. Exactement. Donc après, là, on peut avoir plusieurs astuces. Hein. Ça peut être privilégier les entraînements le matin ou le soir, en fonction si on se décale vers l'est ou vers l'ouest. Donc si on se décale vers l'ouest, ce sera plus, on va privilégier le matin. Alors j'en parlais aussi un peu hier, c'est par rapport à la lumière. D'accord ? La lumière, c'est un gros synchronisateur de nos horloges. C'est un peu comme les poules, en fait. Les poules, elles se réveillent le matin et puis elles se couchent quand il fait noir, quoi. Et c'est pour ça aussi que notre horloge biologique est régulée sur les 24 heures. C'est que le jour fait 24 heures, jour-nuit. Et du coup, il a compris qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui se répétait. D'accord ? Donc, il s'est dit, on va faire en sorte que ton corps aussi il comprenne qu'il y a quelque chose qui se répète. Donc, c'est pour ça que la lumière a un gros impact sur nos rythmes, d'accord, biologiques. D'où les écrans que tu me posais aussi hier. Donc on va faire en sorte, si on se décale vers l'ouest, on va faire en sorte de s'exposer à la lumière, de sorte pour anticiper le temps qu'il va faire aux États-Unis. Mais ça, ce temps-là, où on va s'adapter au temps qu'il va faire soit à l'est soit à l'ouest, on va le faire progressivement, d'accord ? On va pas dire, ok, je vais partir dans 5 jours, je pars aux États-Unis, je vais me mettre... dès cet instant-là, à l'heure des États-Unis. Ça va pas trop marcher. On va plutôt faire, par journée, on va se décaler d'une demi-heure jusqu'au jour ou la veille ou l'avant-veille, d'avoir juste une heure ou une demi-heure de décalage horaire par rapport à l'heure qu'il est à la destination.
Et donc, quand tu dis qu'on va se décaler, ça veut dire qu'on va se lever plus tôt ou plus tard en fonction de le sens dans lequel on va. Et alors, l'exposition à la lumière, c'est-à-dire tu allumes toutes les lumières de la maison à 4 heures du matin, par exemple, pour être sûr que tu aies l'impression qu'il fasse jour, c'est ça ?
Ouais, exactement. C'est souvent ça. Alors, c'est vrai que c'est pas très compatible quand on a une vie de famille, mais c'est l'idée, en tout cas. Soit ça peut être ça, ou soit à l'inverse, ça peut être porter des lunettes de soleil en fin de journée, alors qu'il fait encore jour. Mais le but, c'est de s'exposer à la lumière, si vous voulez. Alors, pour tout vous dire, parce qu'on est là pour se dire tout.
On est entre nous, voilà, de toute façon, il n'y a personne qui écoute.
En fait, on a des récepteurs sur nos yeux qui envoient des messages en continu dans notre cerveau. Et s'il y a de la lumière, ces récepteurs-là bloquent le signal qui sécrète de la mélatonine. Quand il n'y a plus de lumière, le signal passe, et là, ça dit, vas-y, sécrète, c'est la nuit, vas-y, faut dormir. Et c'est pour ça que je vous disais que la lumière est un gros synchronisateur. Pour faire un gros résumé, s'il n'y a pas de lumière, la mélatonine est synthétisée. S'il y a de la lumière, la mélatonine est arrêtée, et là, on va commencer à synthétiser l'hormone qui est à l'opposé, c'est-à-dire le cortisol.
Mais alors, tu me disais dans le premier épisode, qu'il y a certains sportifs sur lesquels tu mesurais la mélatonine et tu voyais que le pic de mélatonine était à midi. Mais à midi, il fait déjà jour. Quel que soit l'endroit, plus ou moins du globe où on se trouve, quelle que soit la période de l'année, été comme hiver, à midi, en théorie, il fait jour.
Oui, exactement. Mais en fait, ce genre de cas, c'était les sportifs qui justement revenaient des États-Unis et ils avaient un méga pic à midi alors qu'ils sont censés être à un niveau plutôt basique. Voilà. Et on voyait justement le décalage horaire qui avait encore un impact et il venait juste de revenir. Donc c'était normal. Voilà. Et après, c'était tout le travail avec eux de récupérer le plus possible ce décalage horaire pour après pouvoir en gêner en Asie. Donc ça, c'était aussi sympa à faire.
Tout à l'heure, tu nous as parlé de comment anticiper le décalage horaire. Donc dormir un peu plus tôt ou un peu plus tard, suivant l'endroit où on allait. Donc plus tôt si on va à l'ouest, plus tard si on va à l'est. Bon, admettons qu'on n'ait pas pu le faire parce que on a un boulot, on a une vie de famille, on a des entraînements. Bref, on n'a pas pu le faire. C'est trop tard, on voyage, on arrive sur place. Comment est-ce qu'on peut récupérer ça justement ? Est-ce que c'est en dormant plus ? Est-ce que c'est en se faisant une session de dodo pendant 12 heures non-stop et on aura récupéré ? Ou au contraire, ça sert à rien de dormir 12 heures, il suffit de dormir une nuit normale et à chaque jour de nuit normale, on va récupérer une heure de décalage ?
Alors ça, c'est hyper intéressant et je pense qu'avec ton exemple sur la Colombie, c'était pas mal, Olivier. Dans le sens où souvent... privilégier en fait les vols où on va arriver pas en fin de journée parce que du coup on sera pas fatigué, on sera toujours à l'heure de France, enfin ça dépend dans quel sens, mais ce sera privilégié les vols qui arrivent en début de journée, dans tous les cas, voyager la nuit. Oui, mais sans trop dormir dans l'avion, dans le sens où souvent on va partir à 15h de France, on va arriver peut-être à 15h aux États-Unis. Alors qu'il est censé être 20h en France.
Ça, c'est dans l'ouest des États-Unis, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, on va dire, le mieux, c'est d'arriver le matin, de faire une journée continue, et vraiment, on va dire, quitte à se coucher un peu plus tôt, 21h, quelque chose comme ça, mais vraiment, en fait, habituer le corps, dès le début, à ce nouveau rythme jour-nuit.
Personnellement, la dernière fois que j'ai été voir ma sœur aux États-Unis, qui est à l'est, hein, qui ouais. est à Boston, ouais. on est parti le matin de Paris, mmh. on est arrivé le matin à Boston, ouais. on a essayé de pas trop dormir la nuit, on enchaînait directement après 2 heures sur un départ vers New York. Je peux t'assurer que les 4 heures de route jusqu'à New York, c'était une horreur, ouais. c'était difficile.
Ouais, bien sûr, mais c'est justement ça en fait de dire, de forcer un peu le corps, ou limite tu fais une sieste, mais pas un cycle complet. Là, tu dis, ok, je te fais une sieste parce que bon, t'es fatigué, je te l'accorde, tu vois, t'es un peu sympa avec ton corps quand même. Mais si tu l'engages en fait dans des cycles complets de sommeil, et ton corps va comprendre bah, que c'est toujours la nuit parce que lui, il est encore calé avec son rythme biologique, mélatonine, il est toujours sur les 24 heures, alors qu'il y a toute l'horloge périphérique qui te dit, bah non, en fait, reste éveillé. Voilà, donc c'est en fait le déséquilibre là parfait des deux horloges qui se dit bah dors, bah non dors pas, voilà.
Bon, c'est dommage, nos auditeurs t'auront que en audio parce que la vidéo était sympa. Je pense qu'on a fait un bon tour pour aujourd'hui. On peut peut-être se donner rendez-vous demain pour finir la semaine et pour échanger sur un nouveau sujet autour du sommeil.
Ça marche,
à demain.
Salut, à demain.
Vous avez apprécié cet épisode? Alors, taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcasts.